Notre invité ce matin dans le 8:30, Rémy Roux, bonjour.
Bonjour.
Candidat sans étiquette, mais divers gauche sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes pour ces élections législatives. On se souvient quand même que vous avez un passé socialiste. Désormais, vous êtes sans carte. Qu'est-ce qui pousse un élu à être... à se désencarter d'un parti et à se présenter ensuite sans étiquette pour une élection qui est nationale.
Sans étiquette, effectivement, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des convictions politiques. Mmh. Pour le coup, j'ai quand même un parcours qui est assez cohérent globalement par rapport à mon engagement en tant que conseiller municipal argentière, conseiller départemental depuis l'année dernière. Faut savoir que pour ces élections, voilà, ma légitimité, j'ai envie de dire, je la tiens de mon engagement depuis de nombreuses années et qui n'est pas liée au simple fait d'avoir une carte politique ou du fait d'avoir reçu une investiture de Paris.
On va parler de la NUP, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, mais je voudrais juste revenir sur l'un de vos engagements qui vous a poussé à travailler pendant quelques années aux côtés de Joël Giraud au sein de l'Argentière l'ABC. Joël Giraud, désormais que vous affronterez dans les urnes, puisque lui, il est investi par la majorité présidentielle. C'est l'un des adversaires que vous vous fixez aujourd'hui, La République En Marche et le Rassemblement National. Quand vous vous êtes annoncé, vous l'avez très clairement dit, moi, ce que je propose, c'est une alternative au RN et à la REM.
Ben oui, effectivement, parce qu'on a bien vu, alors déjà, il faut se remettre dans le contexte des présidentielles.
Vous les mettez dans le même lot ?
Non, absolument pas. Ce sont deux tendances politiques qui sont arrivées en tête au premier tour des élections présidentielles. Et aujourd'hui, ce qui a donné le deuxième tour, où il y a eu beaucoup d'abstention, beaucoup de votes blancs, et les Français se sont sentis quelque part de dire, bon, ben, on a un choix binaire qui est soit Emmanuel Macron, qui a déjà fait un mandat, soit Marine Le Pen, qui a des idées sur lesquelles, qui sont loin de faire l'unanimité. Aujourd'hui, proposer cette alternative, c'est de dire, ben, sur des questions, sur la question rurale, mais je pense qu'on va en discuter, la question des services publics, d'avoir à un moment donné ni la position d'Emmanuel Macron, qui est une forme de libéralisme assez agressif, ni celle de Le Pen, qui est une forme de nationalisme qui est très contestée et qui mettrait le pays en péril.
Et cette union populaire, cette nouvelle union populaire écologique et sociale, hein, issue du rapprochement, en tout cas pour ces législatives, entre la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, on aurait pu vous y voir ?
Ben moi, j'ai pas de carte. Donc effectivement, moi j'ai quitté le Parti socialiste, ça devait être en 2016. À l'époque où un certain ministre de l'économie s'appelait Emmanuel Macron. Donc pour le coup, le fait de ne pas avoir d'étiquette fait que je sors du cadre des partis et des désignations des huiles de Paris qui déterminent dans telle circonscription qui on trouve.
Mais vous en pensez quoi de cette union de la gauche? Michel Rivasi, l'eurodéputé, Europe Écologie Les Verts, hein, disait il y a quelques jours sur Alpin, mais c'est historique.
Alors, on le saura dans quelques temps, c'est historique. Ce qui est historique à l'heure actuelle, c'est Front Populaire 36, c'est 81 et c'est la victoire de Jospin en 97. À l'heure actuelle, il faut bien comprendre que les gens votent pour des personnalités. Pour des gens, des personnalités locales qui s'engagent depuis des années. Moi, je ne crois pas qu'on vote pour une question d'étiquette. On connaît une personne, on connaît son engagement depuis des années, on sait ce qu'il a fait dans le passé, ce qui donne aussi des gages pour le futur, parce que effectivement, les promesses, c'est assez vague. Moi, sur la question des services publics, la défense du train, la défense de l'hôpital public et la ruralité, je suis extrêmement clair, donc je demande aux gens effectivement de voir mon parcours et de voir effectivement mon apport en tant que parlementaire.
Mais vous vous retrouvez un petit peu dans les idées qui sont avancées par Capucine Mounal, qui est candidate pour la NUP, mais candidate, on le sait, en quartier La France Insoumise.
Ben, effectivement, il y a certains sujets, je pense, sur la défense des services publics, sur la question aussi sociale, sur lequel je peux me retrouver. Après, encore une fois, je pense qu'il y a une question sur la forme. Sur le fond, je pense qu'il y a beaucoup de propositions que je peux me retrouver. Sur la forme, effectivement...
Le SMIC à 1500 euros ?
Pardon ?
Le SMIC à 1500 euros, c'est une proposition...
Alors, le SMIC à 1500 euros, alors j'imagine que c'est net, en général, quand on le dit sous cette forme-là. Pour le coup, on passerait d'un SMIC à 1200, 1250, à 1500 euros. Connaissant la situation économique de beaucoup de commerçants, de petites entreprises, artisans locales, tout de suite, on verrait que ce serait très compliqué avec les cotisations sociales. Évidemment qu'il faut augmenter le SMIC parce qu'on a une inflation. Pour le coup, faut faire attention de ne pas l'augmenter brutalement, ce qui, à son tour, crée une augmentation des prix, ce qui serait complètement contre-productif.
Alors, les services publics, vous en parliez. Tout le monde aujourd'hui dit, oui, bah, enfin, la République en marche, on a complètement désossé les services publics. Ça ne date pas forcément du gouvernement mis en place, des gouvernements mis en place par Emmanuel Macron. Ça date déjà de bien longtemps. Ceci dit, le gouvernement Macron a mis en place la 3DS, hein, la loi 3DS, la loi de décentralisation. Joël Giraud, qui était ministre de la cohésion des territoires et de la ruralité, lui a pu mettre en place des Maisons France Services Publics. Aujourd'hui, en effet, on n'a plus le même maillage de services publics. Ça se transforme, par contre, sur le terrain.
Je ne dirais pas que ça se transforme. Je ne suis pas pessimiste, je suis assez réaliste comme garçon. On a une tendance de fond, et vous l'avez dit, hein, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. On a une tendance de fond, on va dire, pour résumer, ça fait 30 ans, qu'on est sur une logique comptable impérieuse.
La gauche n'est jamais revenue sur la loi NOTRe.
Effectivement. Bah, déjà, la gauche est à l'origine de la loi NOTRe.
Alors, il y a eu Nicolas Sarkozy et ensuite la gauche qui l'a mise en place.
Hein. Disons qu'effectivement, sous le mandat de François Hollande, et c'est ce qui m'a amené à démissionner du Parti Socialiste, c'est qu'on s'est rendu compte que les espérances pour reconstruire le service public français ont été un peu revues à la baisse. Depuis 20 ans, la baisse des lits d'hospitalisation dans les établissements publics, elle est criante. Moi, j'ai revu les chiffres sur le département des Hautes-Alpes. On passe, en 20 ans, hein, de 2000 à 2020, de 936 lits à 550. Donc, on a 300 lits en moins sur le département des Hautes-Alpes et on a dans le même temps 19 000 habitants en plus sur le département.
Avec un hôpital en brin qui va être reconstruit, il y a quand même des avancées qui ont pu voir le jour.
Alors, effectivement, l'hôpital d'Embrun, ça, c'est un sujet assez intéressant parce que visiblement, l'hôpital est dans un état tellement dégradé qu'il serait beaucoup plus avantageux d'en reconstruire un. Encore faut-il choisir la question du foncier, terrain, oui. qui a fait l'objet notamment d'une visite du Premier ministre, qui n'est plus à l'heure actuelle. Encore une fois, je veux bien croire que rénover un hôpital ou reconstruire un nouveau serait bien. Ceci dit, c'est sur l'ensemble du territoire qu'il faut voir les choses.
L'insécurité, on en parle aussi dans la seconde circonscription des Hautes-Alpes et notamment à Briançon, incendie criminel la semaine dernière. Dans la ville, on sait aussi que Briançon et le Briançonnais, c'est aussi un point de deal de drogue qui est extrêmement surveillé par le parquet de Gap. L'insécurité, on propose quoi? On fait quoi? Hier, on a pu entendre les propositions du Rassemblement National. Proposition très simple, l'insécurité, c'est l'immigration.
Ben, si on part de ce postulat, déjà, on part avec un handicap. Parce que sur le département des Hautes-Alpes, il y a la France, mais sur le département des Hautes-Alpes, on est un milieu rural. On pensait être à l'abri d'un certain nombre de choses, notamment, vous l'avez dit, sur la question de la drogue. Et on a effectivement des pôles, des plaques tournantes de drogue sur le Briançonnais, ce qui est très inquiétant. Mais aussi, on a une explosion des incivilités. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas être dans le déni total. Si on part du principe que les incivilités, la criminalité vient de l'immigration, on a le mauvais diagnostic pour aller droit à l'essentiel, qui est qu'aujourd'hui, il faut de l'ordre, il faut appliquer de manière stricte justement la loi, sans complaisance, et moi je le dis sans aucun souci, sans aucune complaisance. Et puis à un moment donné, effectivement, l'ordre c'est quoi? L'ordre c'est protéger les classes populaires, protéger les classes moyennes, les gens qui travaillent tous les jours. Les riches ont certainement les moyens d'avoir des protections suffisantes, des alarmes, ce qui n'est pas le cas des gens des classes populaires. Donc effectivement, dans le département des Hautes-Alpes, on n'est pas la Seine-Saint-Denis ou les Bouches-du-Rhône en termes de taux de criminalité, mais pour autant, on assiste, on voit, et demander aux maires, demander aux gens, effectivement, une augmentation des incivilités, et sur lequel il faut être, je pense, intraitable et ne pas trouver des circonstances atténuantes, quelles qu'elles soient.
J'aimerais parler avec vous d'environnement. Oui, en effet, c'est d'environnement. 60% de résidences secondaires occasionnelles sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes. Et dans le même temps, on sait aussi tout le souci que ça représente au niveau de l'isolation. Ce sont souvent des logements qui sont de véritables passoires thermiques, comme ça a pu être mis en avant par une enquête de seloger.com. On propose quoi, justement, pour les propriétaires de résidences secondaires?
Déjà, je pense que de livrer les solutions d'un coup, effectivement, je serais bien ambitieux. Ceci dit, je pense que le fait de réfléchir à à plafonner, comme c'est le cas dans certains cantons en Suisse, du pourcentage de résidences secondaires sur les territoires. C'est une piste intéressante, effectivement.
C'est-à-dire
que vous pouvez donner sur le territoire, de dire que vous ne pouvez pas avoir plus de tant de pourcents de résidences secondaires par rapport au nombre d'habitants.
Sauf que c'est une zone qui est très touristique quand même, hein, la seconde circonscription des Hautes-Alpes, il faut en tenir compte aussi.
Alors, mais encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas empêcher la construction ou de lits froids, enfin de résidences à un moment donné secondaires. Le but, c'est d'encadrer, de réguler et de dire, ben, en proportion du nombre d'habitants, de fixer en proportion le taux maximal de résidences secondaires. Parce que, comme vous l'avez dit, en termes d'isolation, voilà, ça crée un certain nombre de dérèglements. Et on sait que le chauffage des bâtiments est responsable, il y a un des grands responsables derrière les transports de la question de consommation énergétique. Aujourd'hui, il faut faire un plan d'investissement très ambitieux, c'est-à-dire davantage que les aides qui sont à l'heure actuelle, qui sont déployées à la fois par le département, par les services de l'État, sur l'isolation des bâtiments. Pourquoi ? Parce que nous, on a des hivers qui sont extrêmement, extrêmement froids. Et puis, il y a cette question du réchauffement climatique qui, dans notre département, nous touche particulièrement dans la mesure où ce changement va générer des conséquences sur notre activité économique, notamment l'hiver.
On fait quoi pour les stations, d'ailleurs ? Pour les stations de ski, avec ce réchauffement climatique qui menace, et en tout cas qui est en train de montrer très clairement que de toute façon, il va falloir aller de plus en plus haut, hein, pour pouvoir exercer encore la pratique du ski.
Déjà, on diversifie l'activité, on donne les outils pour diversifier l'activité. Alors, au département, on a voté 30 millions d'euros pour les contrats stations. Alors, ça, c'est une donnée aussi que les gestionnaires de stations ont, c'est qu'ils savent, ils le savent quelque part eux-mêmes, qu'il n'y a pas 100% de la clientèle qui va skier, donc il y a une diversification des activités. Quand on dit on va en montagne, c'est il n'y a pas une majorité de gens qui vont skier, il y en a des balades en rando, etc. Et puis aussi l'État, encore une fois, moi je prends toujours la question de l'État bâtisseur qui voit dans le long terme. L'État aussi qui peut permettre, dans un cadre d'un plan de transition des territoires, de dire, bon, voilà, on a, à terme, on sait qu'il va y avoir une baisse de la couverture neigeuse, qu'il va falloir aller toujours plus haut. Et donc, à un moment donné, il faut anticiper ces conditions sur les territoires et leur permettre de diversifier. Alors, nous, pour les Hautes-Alpes, effectivement, diversifier en intersaison, mais au niveau de l'activité. On a l'installation de la fibre optique. Peut-être qu'on peut s'orienter davantage qu'on ne l'est aujourd'hui sur les questions de tertiaire, d'activité tertiaire, de service. La fibre aussi est une opportunité dans cette diversification.
Seconde circonscription, ce sera l'une de mes dernières questions. 50% de la population a plus de 47 ans, 35% a plus de 64 ans, voire 76 ans. La population sera forcément vieillissante dans les prochaines années. Les jeunes ne restent pas. Comment on les fait rester ?
Quand j'ai commencé mon militantisme politique ou mon action citoyenne, ça a été la problématique que j'ai toujours entendue et sur laquelle je réfléchis toujours.
Donc vous n'avez pas de proposition, si ?
De toute façon, j'aurais une proposition clé en main. Je pense qu'on l'aurait déjà appliquée pour le coup. Je pense que rendre attractif notre territoire par les services publics, par les infrastructures, comme je vous l'ai dit, pour l'installation de la fibre numérique, sur la formation professionnelle, notamment faire en sorte qu'il y ait des formations en alternance, des BTS, des DUT. On a le projet de la Haute École du Bois, l'Argentière-l'ABC, sur lequel je tiens beaucoup. Donner, en fait, en réalité, vous ne pouvez pas obliger clairement un jeune de A à Z à rester. Ouais. Moi, je suis allé faire mes études à Grenoble, j'ai travaillé un peu à Grenoble, je suis revenu. C'est de donner les conditions favorables de s'installer. Et pourquoi pas à des jeunes de monter leur entreprise ? Parce qu'effectivement, en donnant les outils numériques, notamment les infrastructures, on peut, à un moment donné, dire que c'est plus sympa de vivre dans les Hautes-Alpes qu'à Toulon, Marseille, Grenoble ou Lyon.
Merci beaucoup Rémy Roux d'avoir été avec nous ce matin dans le 8 Rhône-Alpes 1, candidat sans étiquette qui siégera dans quel groupe s'il est élu ?
Le groupe qui défendra à l'Assemblée nationale les territoires ruraux et les services publics.
Oui. Ça,
Donc un groupe pragmatique et de toute façon les groupes ne sont déterminés qu'à partir du moment où les députés sont élus.
Bon, en tout cas ce sera un groupe divers gauche.
On va dire ça comme ça.
Rémy Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.